La mille et une nuits, tome 9, chapitre 4, histoire de Naam et de Naam. Arabia était un des habitants de Koufa les plus riches et les plus distingués. La naissance d'un fils, en lui procurant le seul bien qui lui manquait, vint mettre le comble à son bonheur. Arabia prit l'enfant dans ses bras dès qu'il fut au monde, leva les yeux au ciel et lui donna le nom de Naam Allah. Ce fils, dès sa plus tendre enfance, devint l'objet de tous les soins et de toutes les complaisances de son père. Empressé de satisfaire ses moindres désirs et d'aller au-devant de tout ce qui pouvait l'amuser et lui plaire. Un jour, que Rabia se promenait sur la place où l'on vend les esclaves, il aperçut une femme de bonne mine et encore jeune, qui tenait entre ses bras une petite fille de la figure la plus charmante et la plus jolie du monde. « Combien, l'esclave et son enfant ?» dit Rabia en s'adressant au courtier. « 50 sequins, » répondit le courtier. « Les voici, » reprit Rabia. « Remettez le propriétaire de l'esclave et dressez sur le champ l'acte de vente. » L'acte étant achevé, Rabia paya au courtier son droit de commission et emmena avec lui l'esclave et son enfant. L'épouse de Rabia, le voyant entrer à la maison ainsi accompagnée, lui demanda quelle était cette femme. « C'est une esclave, » répondit Rabia, « dont je viens de faire l'acquisition. Sa petite fille m'a paru charmante et je crois qu'elle deviendra un jour la plus belle personne de l'Arabie et de la Perse. Elle est à peu près de l'âge de Naam, et ils pourront jouer ensemble. « Vous avez bien fait de l'acheter, » dit l'épouse de Rabia. « Cette petite fille me plaît aussi beaucoup. « Quel est ton nom ? » dit-elle ensuite à l'esclave. « Madame, je m'appelle Taoufik. « Et la petite fille ? « Elle se nomme Saad. « Tu as raison de l'appeler ainsi, car tu es heureuse d'avoir une aussi jolie petite fille. « Mais il faut que nous lui donnions aussi un nom de notre choix. » « Comment, dit l'épouse de Rabia à son mari, voulez-vous nommer cet enfant ?»« Je m'en rapporte à vous sur cela, répondit-il. « J'ai envie, dit son épouse, de l'appeler Naam. »« Eh bien, soit, reprit Rabia. Ce nom ressemble à celui de Naam. Vous ne pouviez en choisir un plus convenable et qui me fut plus agréable. » Naam et Naam, élevés ensemble jusqu'à l'âge de 10 ans, croissaient à l'envi l'un et l'autre en beauté et en perfection, et se donnaient réciproquement les doux noms de frère et de sœur. Rabia prit alors son fils en particulier et lui dit « Mon fils, Naam n'est pas votre sœur, mais votre esclave. Je l'ai achetée pour vous lorsque vous étiez encore au berceau. Vous ne devez plus dès ce moment l'appeler votre sœur. » « Si cela est, répondit le jeune homme, je puis donc l'épouser. » Naam courut sur le champ informer sa mère de ce qu'il venait d'apprendre et du dessein qu'il avait formé. « Mon enfant, lui dit cette bonne mère aussi complaisante que son époux pour les désirs de son fils. Naam est votre esclave, vous pouvez en disposer à votre gré. » Naam, satisfait de cette réponse, s'empressa de faire conclure son mariage avec Naam. Il en devint éperdument amoureux et passa plusieurs années dans l'union la plus douce et la plus délicieuse. Naam méritait effectivement l'affection de son époux. Elle joignait au charme de la figure et à l'élégance de la taille une humeur douce et aimable, et un esprit développé par l'éducation la plus soignée. Elle lisait avec une grâce infinie et jouait de toutes sortes d'instruments. Sa voix touchante remuait tous les cœurs quand elle s'accompagnait de la guitare et du tambourin dont elle jouait si parfaitement qu'elle surpassait les meilleurs maîtres de son temps. Enfin, Naam pouvait être regardée avec raison comme la personne la plus belle et la plus accomplie de Koufa. Un jour qu'elle était assise auprès de son époux, et qu'ils prenaient ensemble le sorbet, elle se mit à préluder sur sa guitare et à chanter ses paroles. « Puisqu'un maître généreux me comble de ses bienfaits et de ses faveurs, je ne puis craindre désormais aucun revers. Il est mon épée et mon bouclier. Lui seul fait mon bonheur. Que m'importe le reste des humains ?» Naam témoigna vivement à son épouse le plaisir qu'il avait à l'entendre et la pria de continuer en s'accompagnant du tambourin. Elle reprit ainsi. Oui, j'en jure par la vie de celui qui règne sur mon âme. Je tromperai l'espoir de ceux qui portent envie à sa félicité. Je serai toujours soumise à ses moindres volontés. Je me réjouirai sans cesse du bonheur que j'ai de le posséder, et son amour ne sortira jamais de mon cœur. Naam, de plus en plus transportée de joie, ne pouvait trouver d'expressions assez fortes pour peindre son ravissement. Chaque jour, il entendait son épouse chanter et s'accompagner de la guitare ou du tambourin, et chaque jour, il l'entendait avec un nouveau plaisir. Mais tandis que ces jeunes époux coulaient ensemble d'aussi heureux jours, Hedjadj, gouverneur de Koufa pour le calife Abdalmelek Ebn Berouan, ayant entendu vanter les charmes et les talents de Naam, conçut le projet de l'enlever et de la remettre entre les mains du calife. Il croyait lui faire un présent d'autant plus agréable qu'il était bien sûr que le calife n'avait dans son sérail aucune femme dont la beauté pût être comparée à celle de Naam et qui chantât aussi bien qu'elle. Hedjadj, pour venir à bout de son dessein, fit venir une vieille femme dont il avait souvent éprouvé, dans ces sortes d'occasions, l'adresse et l'habileté. Il lui ordonna de s'introduire dans la maison de Rabia, de faire connaissance avec Naam et de trouver quelque moyen de l'enlever. La vieille promit d'obéir au gouverneur. Le lendemain, la vieille s'affubla d'un vêtement de laine grossière, passa un chapelet à gros grains autour de son cou et s'appuya sur un bâton au haut duquel était attachée une gourde. Dans cet équipage, elle s'achemina vers la maison de Rabia, récitant assez haut pour être entendue quelques prières et répétant souvent « Seban Allah, Alhamdulillah, la illa illa Allah al-Karim, la hual wa la kuwat illa billah al-ali al-azim. » Arrivée devant la maison, à l'heure de la prière du midi, elle frappa à la porte. Le portier vint ouvrir et lui demanda ce qu'elle voulait. « Je suis, dit la vieille, une pauvre servante de Dieu. Je me trouve surprise par l'heure de la prière du midi, et je voudrais entrer dans cette sainte et respectable maison pour y faire ma prière. »« Bonne femme, lui dit le portier, cette maison n'est point une mosquée ni un oratoire. C'est la maison de Naam, fils de Rabia. »« Je le sais, reprit la vieille, je connais très bien de réputation cette maison et ceux qui l'habitent. Car, tel que vous me voyez, je suis attachée au palais du calife. Je suis sortie seulement depuis peu par esprit de dévotion et pour m'acquitter de quelques pèlerinages. » Tout cela est fort bon, dit le portier, mais je ne puis vous laisser entrer. La vieille insista et dit en élevant la voix de plus en plus. Comment? On empêchera d'entrer chez Naama, fils de Rabia, une personne comme moi, qui pénètre à toute heure dans le palais des princes et des grands? Naama, qui entendit ces paroles, se mit à rire. Il sortit, fit signe au portier de laisser entrer et conduisit la vieille à l'appartement de sa femme. La vieille fut vivement frappée de la beauté de Naam. Elle la salua profondément et lui dit « Je vous félicite, madame, d'avoir reçu du ciel en partage tant de grâce et d'attrait et d'être unie à un époux qui peut passer lui-même pour un modèle de beauté. » Elle se remit ensuite en prière et ne cessa de faire ses génuflexions et ses adorations jusqu'à ce que la nuit fût arrivée. La jeune esclave lui dit alors « Ma bonne mère, reposez-vous un peu. »« Madame, répondit la vieille, celui qui veut être heureux dans l'autre monde doit souffrir dans celui-ci. » Naam, ayant fait apporter à manger, dit à la vieille. « Prenez un peu, ma bonne, de ce que je vous présente. Priez Dieu de toucher mon cœur et de répandre sur moi sa miséricorde. »« Vous êtes jeune, madame, répondit la vieille. À votre âge, on doit jouir des douceurs de la vie. Dieu, j'en suis sûre, touchera un jour votre cœur. » Car on lit dans le Saint Alcoran que Dieu pardonnera à ceux et à celles qui ont embrassé la foi parce qu'il est bon et miséricordieux. Naam s'entretint ainsi quelque temps avec la vieille et dit ensuite à son mari. Je voudrais que vous fissiez quelque chose en faveur de cette bonne vieille, car elle porte la piété empreinte sur son visage. Eh bien, répondit-il, faites-lui préparer une salle pour qu'elle puisse s'y retirer, et ayez soin que personne n'en approche et ne trouble ses exercices de piété. Peut-être que Dieu, à sa considération, nous comblera de ses bienfaits et ne permettra point que nous soyons jamais séparés. La vieille passa toute la nuit à lire et à prier. Au point du jour, elle vint trouver Naam et Naama, leur souhaita le bonjour et voulut prendre congé d'eux. Où allez-vous, ma bonne? Lui dit Naam. Mon mari m'a ordonné de vous faire préparer une salle où vous serez seule et où vous pourrez prier à votre aise. Que Dieu, dit la vieille, prolonge vos jours et vous comble de ses bénédictions. Je vais visiter les mosquées, les oratoires, les tombeaux des plus dévots personnages, et j'aurai soin de prier pour vous. Permettez-moi seulement de venir vous voir quelquefois et recommandez à votre portier de me laisser entrer. » La vieille étant sortie, Naam, dont elle avait déjà su gagner la confiance et qui ne soupçonnait rien de son perfide dessein, fut si fâchée de son départ qu'elle ne put s'empêcher de pleurer. La vieille alla trouver sur le champ et Hedjadj, qui, dès qu'il l'aperçut, lui demanda où elle en était. Elle lui raconta ce qui s'était passé et lui avoua qu'elle n'avait jamais vu une aussi belle personne. et lui promit de la récompenser magnifiquement si elle réussissait dans son entreprise. La vieille exagéra les difficultés qu'elle aurait à surmonter et demanda un mois de délai. Le gouverneur le lui accorda. La vieille retourna le lendemain chez Naam et continua d'aller voir fréquemment les deux jeunes époux qui lui donnaient tous les jours de nouvelles marques de respect et d'affection. Tous les gens de la maison, de leur côté, lui faisaient des caresses et s'empressaient de la bien recevoir. Un jour que la vieille se trouva seule avec la jeune esclave, elle lui dit « Que ne pouvez-vous, madame, venir avec moi visiter les mosquées et les lieux saints? Vous y verriez des vieillards respectables et des femmes pieuses qui demanderaient au ciel tout ce que vous pourriez souhaiter. » « Je voudrais de tout mon cœur vous y accompagner, » répondit Naam. Se tournant ensuite vers sa belle-mère, elle lui dit « Demandez, je vous prie, madame, à mon mari qu'il me laisse sortir avec vous et la vieille pour aller visiter les mosquées et nous trouver au milieu des pauvres et des serviteurs de Dieu. » La belle-mère témoigna qu'elle serait bien aise de remplir elle-même cette pratique de dévotion et promit d'en parler à son fils. Naam étant rentrée sur ses entrefaites, la vieille s'approcha de lui, lui baisa la main, fit l'éloge de sa bonté et de sa générosité et sortit en faisant des vœux pour lui. Le lendemain, la vieille revint, et profitant du moment où Naama n'était point à la maison, elle alla trouver la jeune esclave et lui dit « Nous avons passé toute la soirée d'hier à prier pour vous. Sortons ensemble aujourd'hui. Venez passer un moment avec nos saints personnages. Nous serons de retour avant que votre maître ne soit rentré. » Naam, s'adressant à sa belle-mère, la pria de lui permettre de sortir un moment avant que son mari ne rentrât. « Je n'ai point encore prévenu Naama, » dit la belle-mère, « et je crains qu'il ne soit fâché s'il sait que vous êtes sortie. »« Madame, » dit la vieille, « nous ne ferons qu'entrer dans la mosquée la plus voisine, et nous ne tarderons pas à revenir. » La vieille ne fut pas plutôt sortie avec la jeune esclave qu'elle la conduisit au palais des Djadje, à qui elle fit aussitôt savoir son arrivée. Et Djadje, étant entré dans la chambre où la vieille avait déposé Naam, fut extrêmement surpris de sa beauté. Jamais il n'avait rien vu de si parfait et de si régulier. Naam, en l'apercevant, baissa son voile. Et Djadje fit appeler sur le champ un de ses officiers et lui ordonna de monter à cheval avec 50 cavaliers, de faire monter la jeune esclave sur un de ses meilleurs chameaux, de la conduire à Damas et de la remettre entre les mains du calife Abdelmalek Merwan. Il le chargea de plus d'une lettre pour ce prince. Il lui prescrivit de lui en rapporter la réponse et de faire la plus grande diligence. L'officier s'empressa d'exécuter ses ordres. Il s'empara de la jeune esclave, la fit monter sur un chameau et partit. Pendant la route, Naam ne fit que pleurer et gémir de se voir ainsi séparée de son époux. Arrivé à Damas, l'officier demanda la permission de parler au calife et lui remit la lettre dont il était chargé. Ce prince, l'ayant lu, demanda où était la jeune esclave. L'officier la lui présenta et la remit entre ses mains. Le calife la fit conduire dans un appartement particulier et alla sur le champ annoncer à son épouse que Edjadje venait de lui acheter, pour 1000 sequins, une esclave de la famille des princes de Koufa. « Cette esclave, ajouta-t-il, vient d'arriver en même temps que cette lettre. » Son épouse lui témoigna sa satisfaction d'apprendre une nouvelle qui paraissait lui être aussi agréable. La sœur du calife étant entrée dans l'appartement où était la jeune esclave, et l'ayant aperçue, s'écria « Le maître à qui vous appartenez n'aurait point fait un mauvais marché, quand même il vous aurait payé 100 000 pièces d'or. » Naam, sans faire attention à ses paroles, lui dit « Au nom de Dieu, madame, daignez m'apprendre quel est ce palais, à quel prince il appartient, et le nom de la ville où je me trouve. » « Vous êtes, lui répondit la princesse, dans la ville de Damas. Ce palais est celui de mon frère, le calife Abdelmalek et Bormerouan. « Mais vous m'interrogez comme si vous ignoriez tout cela. »« En vérité, madame, » répondit Naam, « je l'ignorais absolument. »« Comment, » reprit la princesse, « celui qui vous a vendu et qui a touché le prix de votre liberté, ne vous a-t-il pas informé que le calife venait de vous acheter ?» À ces mots, des larmes abondantes couvrirent le visage de la jeune esclave. Elle maudit la ruse infâme dont elle était la victime et dit en elle-même. « Si je parle, personne ne voudra me croire. Et peut-être je serai bientôt réclamée par celui qui a seul des droits sur moi. » Comme Naam paraissait extrêmement fatiguée du voyage, la sœur du calife la laissa reposer tout le reste de la journée. Le lendemain, elle lui apporta du linge, des robes, un collier de perles et des bracelets, et voulut qu'elle s'emparât en sa présence. Le calife, étant entré sur ses entrefaites, alla s'asseoir à côté de Naam, qui se cacha aussitôt le visage avec les mains. La princesse ayant fait à son frère l'éloge de la beauté et des perfections de la nouvelle esclave, il le pria de ne point lui dérober la vue de tant d'attraits. Naam n'eut aucun égard aux prières du calife, et resta constamment dans la même attitude. Mais ses bras exposés au regard de ce prince firent naître en lui la passion la plus vive. Il dit à sa sœur qu'il reviendrait dans 3 jours et ajouta « J'espère que cette jeune beauté fera d'ici là connaissance avec vous et qu'elle sera plus sensible à l'amour qu'elle a su m'inspirer. » Lorsque le calife fut sorti, Naam se mit à réfléchir de nouveau sur sa situation et à gémir de se voir ainsi séparé de son maître. Le soir, la fièvre la prit. Elle ne voulut goûter aucune nourriture, et bientôt, ses traits et sa beauté s'altérèrent. Le calife, informé de son état, en conçut un violent chagrin. Il envoya chercher les médecins les plus habiles et les accompagna chez la jeune esclave. Mais aucun d'eux ne put découvrir la source de son mal ni trouver les moyens de la soulager. La situation de Naam était absolument la même que celle de son esclave. En rentrant chez lui, il s'assit sur un sofa et appela sa chère Naam. Comme elle ne répondait point, il se leva avec précipitation et se mit à l'appeler plus fort. Mais personne ne vint, car toutes les esclaves s'étaient cachées, craignant les effets de la colère de leur maître. Naam se rendit à l'appartement de sa mère et la trouva la tête appuyée sur ses mains, dans l'attitude d'une personne qui réfléchit profondément. « Ma mère, s'écria-t-il, où est Naam ?»« Mon fils, lui répondit-elle, elle est aussi bien que si elle était avec moi. Elle est sortie avec la bonne vieille pour aller visiter les pauvres, et elle doit bientôt rentrer. »« Elle n'a pas coutume de sortir ainsi, reprit vivement Naam. Et à quelle heure est-elle sortie ?»«
Dans la matinée, lui dit-elle.
Comment, ma mère, avez-vous pu lui accorder cette permission ?» C'est elle qui l'a voulu, mon fils. Naam sortit de chez lui tout hors de lui-même et alla trouver le commandant de la garde. « C'est vous, lui dit-il en l'abordant, qui par une ruse perfide m'avez fait enlever mon esclave? Mais je vais aller me plaindre au calife et l'informer de votre conduite. »«
Qui donc a enlevé votre esclave ? » Dit le commandant de la garde.
« C'est une vieille femme, faite de telle et telle manière, couverte d'une robe de bure et qui porte ordinairement un chapelet à la main. »
Le commandant reconnut à ce portrait la vieille dont se servait quelquefois le gouverneur et se douta qu'elle n'avait agi que par ses ordres. Mais la politique, l'empêchant de rien faire connaître à Naam, «
Conduisez-moi vers cette femme, lui dit-il, et je vais vous faire rendre votre esclave. »
« Je ne sais où elle demeure, dit Naam.
« En ce cas, reprit le commandant, comment la découvrir? Dieu seul sait où elle peut être. »
« Vous pouvez, continua Naam, me faire retrouver mon esclave, et je vais de ce pas porter mes plaintes contre vous au gouverneur. »
Naam se rendit en effet au palais de Hedjadj. Comme son père était un homme des plus puissants de Koufa, il eut bientôt accès.
« Que voulez-vous, Naam ?» lui dit Hedjadj dès qu'il l'aperçut.
Naam raconta ce qui venait de lui arriver. Hedjadj fit venir le commandant de la garde et lui demanda où pouvait être l'esclave de Naam, fils de Rabia. Le commandant eut garde de paraître savoir quelle était la vieille qui avait enlevé l'esclave et répondit que Dieu seul connaissait ce qui était caché.
« Montez à cheval, lui dit Hedjadj, parcourez avec soin les chemins et cherchez de tous côtés cet esclave si cher à son maître. »
Se tournant ensuite vers Naam, « Si votre esclave ne vous est pas rendu, lui dit-il, vous pourrez en prendre 10 des miennes à votre choix, et autant de celles du commandant de la garde pour vous indemniser de votre perte. »«
Allons donc, cria-t-il au commandant, courez après l'esclave de Naam. »
Le commandant de la garde sortit, et fit semblant d'exécuter l'ordre qu'il venait de recevoir. Naam se retira chez son père, accablé de chagrin et en proie au plus violent désespoir. Quoiqu'il n'eût encore que 14 ans et que ses joues fussent à peine couvertes d'un léger duvet, la vie lui paraissait insupportable. Il versait des torrents de larmes et ne voulait plus revoir les lieux qui lui rappelaient des souvenirs trop chers. Sa mère, vivement affectée de son état, passa la nuit tout entière à pleurer et à gémir avec lui. Son père cherchait en vain à le consoler, en lui disant que, selon les apparences, c'était le gouverneur qui avait fait enlever son esclave, et que peut-être il pourrait bientôt la recouvrer. Le jeune homme, insensible à tout, était incapable de goûter aucune consolation. Son chagrin s'accrut au point que sa raison se troubla. Il ne savait plus ce qu'il disait, et ne connaissait plus ce qui entrait chez lui. Il languit dans cet état pendant 3 mois.
Rabia fit inutilement venir auprès de son fils les plus habiles médecins. Ils s'accordèrent tous à dire que la présence seule de la jeune esclave était capable de le sauver. Un jour, que Rabia, de plus en plus inquiet sur l'état de son fils, désespérait presque de sa vie, il entendit parler d'un fameux médecin persan, très habile en astrologie, qui venait d'arriver à Koufa. Il pria sa femme de le faire venir. « Peut-être, lui dit-il, ce médecin trouvera quelque moyen pour sauver notre enfant. » On fit aussitôt chercher le médecin. Lorsqu'il fut entré, Rabia le fit asseoir auprès du lit de son fils et le pria d'examiner la maladie. Le médecin persan prit la main du jeune homme, tâta ses membres les uns après les autres, et ayant fixé attentivement les traits de son visage, il se mit à sourire et dit au père. « La maladie de votre fils assiège dans le cœur. » « Vous avez raison, dit Rabia surpris. » Et aussitôt, il raconta au médecin ce qui venait d'arriver à Naam. La jeune esclave dont vous me parlez, dit le médecin, est maintenant ou à Basra ou à Damas, et nous n'avons point d'autre moyen de sauver votre fils que de le réunir avec elle. Si vous pouvez en venir à bout, dit Rabia, toute ma fortune est à votre disposition, et je vous promets de vous faire le sort le plus heureux. Ce qui me regarde, dit le persan, est ce qu'il y a de moins pressé. Et se tournant vers Naam, ayez bon courage, mon enfant, lui dit-il, bientôt vous serez satisfait. Il demanda ensuite à Rabia s'il pouvait disposer de 4000 pièces d'or. Rabia les alla aussitôt chercher et les lui remit entre les mains. Mon dessein, dit alors le médecin, est de mener votre fils à Damas et je vous jure de n'en pas revenir sans l'esclave à laquelle il est si attaché. Il adressa ensuite la parole à Naama et lui demanda comment il s'appelait. Ayant appris qu'il s'appelait Naama, allons, Naama, lui dit-il, levez-vous un peu. « Ayez confiance dans la Providence qui doit vous réunir incessamment à votre esclave. En attendant, modérez le chagrin qui vous dévore. Prenez un peu de nourriture et tâchez de recouvrer vos forces pour être en état de supporter la fatigue du voyage, car dans 8 jours, il faudra nous mettre en chemin. » Le médecin persan s'occupa bientôt des préparatifs du départ. Il se fit donner des présents de toute espèce, demanda encore 6000 sequins pour compléter la somme de 10000 sequins qu'il jugea lui être nécessaire pour l'exécution de son projet, et fit préparer les chevaux, les chameaux et tous les bagages dont il avait besoin. Au bout de 8 jours, Naama dit adieu à son père et à sa mère et partit avec le médecin persan. Ils s'arrêtèrent à Alep pour prendre des renseignements sur la jeune esclave, mais ils ne purent en obtenir aucun. Étant arrivés à Damas, ils s'y reposèrent pendant 3 jours. Le médecin persan loua ensuite une boutique qu'il fit arranger avec la plus grande magnificence. Elle était entourée d'armoires, ornée de plaques d'or et remplie de vases de la porcelaine la plus fine, dont les couvercles étaient d'argent. Le devant de la boutique était garni de bocaux de cristal remplis d'huiles précieuses, de breuvages et de drogues de toute espèce. Le médecin persan eut soin de faire placer au milieu de la boutique son astrolabe et la planche sur laquelle il faisait ses calculs astronomiques. Il s'habilla ensuite en médecin, d'une manière magnifique, et fit prendre à Naama une chemise de toile la plus fine, une tunique de satin brodée en soie et une ceinture rayée des plus brillantes couleurs. « Dorénavant, lui dit-il, vous ne m'appellerez plus que votre père, et je ne vous appellerai plus que mon fils. » Tout le peuple de Damas se porta vers la boutique du médecin persan pour en admirer la richesse et l'élégance, et surtout pour voir Naama, qui charmait tout le monde par sa beauté et la régularité de ses traits. Le persan n'adressait la parole au jeune homme qu'en turc, et celui-ci ne répondait qu'en cette langue. On ne parla bientôt dans toute la ville que du médecin persan. De tous côtés, on venait le consulter sur toutes les espèces de maladies, et il possédait des remèdes pour toutes. À la seule inspection de l'urine du malade, il connaissait le genre de mal dont il était attaqué, donnait les remèdes qui devaient le guérir, et prescrivait le régime qu'il devait suivre. Il devint en peu de temps l'oracle de tout le monde. Sa réputation se répandit dans toute la ville et pénétra jusque dans des palais des grands. Un jour, qu'il était occupé à préparer ses drogues, une vieille dame, montée sur une mule dont la selle était brodée en argent, s'arrêta devant sa boutique et lui fit signe de venir lui donner la main pour l'aider à descendre. Le médecin s'avança poliment vers elle, lui donna la main et la fit entrer dans sa boutique. « Vous êtes sans doute, monsieur, lui dit-elle, le médecin persan arrivé dernièrement d'Arabie en cette ville. » Sur sa réponse affirmative, Elle lui dit qu'elle avait une fille attaquée d'une maladie dangereuse, et en même temps, elle lui présenta le flacon où était renfermée l'urine de la jeune personne. Lorsqu'il l'eut considérée avec attention, il demanda à la vieille quel était le nom de sa fille. « Car, dit-il, il faut que je tire son horoscope afin de connaître le moment favorable pour lui faire prendre le breuvage qui doit lui rendre la santé. »« Elle s'appelle Naam, dit la vieille. » À ce nom, le médecin se mit à réfléchir et à compter sur ses doigts, et regardant fixement la vieille. « Madame, lui dit-il, je ne puis prescrire de remède à votre fille sans savoir le nom de la ville où elle est née. Cela est absolument nécessaire pour que je puisse calculer la différence des climats et l'influence de l'air atmosphérique. Je vous prie donc de me faire connaître l'endroit où elle a été élevée et l'âge qu'elle a maintenant. » « Elle a 14 ans, dit la vieille, et elle a été élevée dans la ville de Koufa. » « Depuis quel temps, reprit le médecin, est-elle dans ce pays ?»«
Depuis quelques mois, répondit la vieille. »
Naam, présente à cet entretien, n'en perdait pas une syllabe et était dans une extrême agitation. Le médecin et lui s'entre-regardaient et se faisaient des signes d'intelligence. « Prenez telle et telle chose, lui dit le médecin, et préparez-en une potion. » La vieille jeta 10 pièces d'or sur le comptoir et regarda plus attentivement le jeune homme occupé à préparer la potion. « Mon Dieu, le pauvre jeune homme, dit-elle au médecin, est-ce votre esclave ou votre fils ?»«
Madame, c'est mon fils, lui répondit-il. »
Lorsque Naam eut fini son ouvrage, il écrivit un petit billet dans lequel il introduisit Naam de son arrivée par ce vers. « En découvrant les lieux que vous habitez, je sens augmenter mon amour et mon tourment. » Il glissa adroitement le billet dans une boîte qui contenait le breuvage. Il cacheta cette boîte, et ayant écrit son nom dessus, il la présenta à la vieille qui la prit, et les ayant salués, s'en retourna au palais du calife. En entrant dans l'appartement de la jeune esclave, elle lui présenta la boîte et lui dit qu'elle venait de voir un médecin persan fort habile arrivé tout récemment à Damas et de le consulter sur la maladie dont la chère Naam était atteinte. « Il a parfaitement compris l'espèce de votre mal, poursuivit-elle, et il a ordonné à son fils de préparer pour vous le breuvage enfermé dans cette boîte. Il n'y a point dans Damas de jeune homme plus beau ni mieux fait que le fils de ce médecin, ni de boutique comparable à la sienne. » Naam prit la boîte des mains de la vieille. À peine eut-elle jeté les yeux sur le couvercle qu'elle reconnut l'écriture et le nom de son cher maître. Elle changea de couleur à cette vue et ne douta point que le maître de cette boutique ne fût venu exprès de Koufa pour s'informer de ce qu'elle pourrait être devenue. Elle pria la vieille de lui faire le portrait du jeune homme dont elle venait de lui parler. Celle-ci s'en acquitta parfaitement. Elle lui dit qu'il s'appelait Naama, qu'il avait un signe sur le sourcil droit, qu'il était vêtu de la manière la plus élégante et qu'il avait la plus belle figure que l'on pût voir. Pendant ce discours, Naam prenait le breuvage et souriait aux traits dont la vieille embellissait la peinture. « En vérité, dit-elle, ce breuvage me fait le plus grand bien. Il m'inspire de la gaieté et je me sens beaucoup mieux. Quel heureux jour, s'écria la vieille, et que j'ai bien fait d'aller consulter ce médecin. » Naam, ayant ensuite témoigné qu'elle désirait manger quelque chose, la vieille courut appeler une esclave et s'empressa de faire servir les mets les plus délicats. Dans ce moment, le calife entra dans l'appartement de la jeune esclave, et, la voyant occupée à manger, lui témoigna le plaisir que lui causait le retour de sa santé. « Souverain commandeur des croyants, lui dit la vieille, la satisfaction que vous faites éprouver le rétablissement de votre esclave, vous la devez à un médecin qui vient d'arriver en cette ville. Personne ne connaît mieux que lui toutes les espèces de maladies. Une seule ordonnance suffit pour les guérir radicalement. « Portez, dit le calife, une bourse de 1000 pièces d'or à ce médecin pour la cure qu'il a opérée. » Le calife sortit peu après et la vieille s'empressa de porter les 1000 pièces d'or au médecin persan. La vieille, en présentant la bourse, lui dit que la jeune personne qui l'avait guérie n'était point sa fille, mais l'esclave favorite du calife. Elle lui remit en même temps une lettre que Naam venait d'écrire. Le médecin donna cette lettre à Naam, qu'il apprit avec un trouble et un saisissement difficiles à exprimer. Cette lettre était conçue en ces termes. L'esclave, privée de sa félicité, déchue de son bonheur, séparée de son bien-aimé, a reçu le billet qu'il lui a envoyé et lui répond par ses vers. En recevant votre lettre, mes doigts en ont tracé d'eux-mêmes la réponse. Parfumez-vous et livrez-vous à l'espoir. Moïse fut remis à sa mère et la robe de Joseph fut rendue à son père. En lisant ces vers, Les yeux du jeune homme étaient baignés de larmes. La vieille s'en aperçut et témoigna sa surprise au médecin. « Comment ne pleurait-il pas ?» lui dit-il. « Cette jeune personne est son esclave, et il l'aime avec passion. Car, madame, je dois vous avouer la vérité. Ce jeune homme n'est point mon fils, c'est celui de Rabia de la ville de Koufa. La lettre qu'il a écrite à Naam a pu seule rendre la santé à cette jeune personne qui n'avait point d'autre maladie que le chagrin de se voir séparée de son cher maître. Prenez, madame, ces 1000 pièces d'or, et comptez sur une récompense plus généreuse si votre cœur se laisse toucher de pitié pour ces amants infortunés. Vous êtes la seule personne qui puisse arranger cette affaire, et c'est sur vous que se fondent toutes nos espérances. » La vieille, un peu étonnée, mais encore plus flattée de cette confidence, demanda à Naama s'il était effectivement le maître de la jeune esclave. Celui-ci le lui ayant affirmé, elle lui avoua que Naam ne cessait de parler de lui. Le jeune homme lui ayant raconté toutes ses aventures, la vieille en fut vivement touchée et l'assura qu'elle allait travailler de tout son cœur à les réunir. Elle remonta aussitôt sur sa mule et s'en retourna promptement au palais. En entrant dans l'appartement de la jeune esclave, la vieille la fixa en souriant et lui dit « Vous convient-il de vous affliger ainsi et de vous rendre malade pour Naama, fils de Rabia de la ville de Koufa ?»« Grand Dieu !» s'écria Naama, « tout est découvert !»« Rassurez-vous, » lui dit la vieille, « je n'abuserai point du secret qu'on m'a confié. Je veux vous faire votre bonheur à tous deux, et j'exposerai ma vie pour y réussir. » La vieille retourna peu après chez Naama. « Je viens, lui dit-elle, de voir votre esclave, et de m'entretenir avec elle. L'amour qu'elle a pour vous ne le cède point à celui que vous avez pour elle, et la passion du calife, à laquelle elle est insensible, prouve que rien ne peut ébranler sa constance. Je médite un projet qui doit vous plaire, mais il faut pour l'exécution vous armer de hardiesse et de courage. Je vais chercher un moyen de vous introduire dans le palais du calife, et de vous procurer un tête-à-tête avec votre esclave, car pour elle, il lui est impossible de sortir. « Que Dieu seconde vos bonnes intentions, dit Naama, et vous récompense comme vous le méritez. » La vieille, ayant quitté Naama, revint au palais et dit à la jeune esclave que son maître venait de lui témoigner le plus grand ardent désir de la voir. Et lui demanda quels étaient ses sentiments à cet égard. « Je le souhaite autant que lui, dit en soupirant Naama. » La vieille sortit bientôt après avec un petit paquet sous son bras dans lequel elle avait renfermé un collier de perles, des bijoux, et tout ce qui était nécessaire à la toilette d'une femme. Elle se rendit en diligence chez Naama et le pria de passer dans l'arrière-boutique afin de pouvoir être seule. Là, elle lui peignit le visage et les bras et lui teignit les cheveux. Elle lui fit prendre une tunique et un pantalon de soie, lui mit un bandeau sur la tête et le para exactement comme une jeune esclave du sérail. Quand la vieille eut fini, elle examina Naama de la tête aux pieds sous ce nouveau vêtement et s'écria. « En vérité, je n'ai jamais vu une figure aussi charmante. Il est même plus beau que son esclave. Marchez devant moi, lui dit-elle ensuite. Avancez le côté gauche, inclinez un peu le côté droit, affectez un air nonchalant et donnez du mouvement à votre robe. » Lorsqu'elle l'eut bien instruit et qu'elle le vit en état de jouer son rôle, elle lui dit « Je viendrai vous prendre demain soir pour vous mener au palais. Ne vous effrayez pas à la vue des esclaves et de ceux qui les commandent. Faites bonne contenance, baissez la tête, et n'adressez la parole à personne. J'aurai soin de répondre pour vous. » Le lendemain soir, la vieille vint prendre Naama et se rendit avec lui au palais du calife. Elle entra la première. Mais quand le jeune homme qui marchait derrière elle voulut passer, le portier l'arrêta. La vieille le regarda de travers et lui dit qu'il était bien hardi d'oser arrêter Naama, l'esclave favorite du calife, à la santé de laquelle ce prince prenait tant d'intérêt. Le portier interdit laissa entrer Naama, qui pénétra sans opposition avec la vieille jusque dans la cour intérieure du palais. « Rassurez-vous, lui dit-elle alors, entrez hardiment et prenez à gauche. Ayez soin de compter les appartements devant lesquels vous passerez et entrez dans le 6e, où tout est disposé pour vous recevoir. Surtout, ne vous effrayez pas, et si quelqu'un vous adressait la parole et voulait causer avec vous, gardez-vous de répondre et de vous arrêter. » Comme ils approchaient de la porte intérieure du harem, le chef des eunuques noirs les arrêta et demanda à la vieille quelle était cette esclave. « C'est, répondit-elle, une esclave que ma maîtresse veut acheter. « On ne peut entrer ici, dit l'eunuque, sans la permission du calife. Retournez sur vos pas. Les ordres que j'ai reçus sont précis et ne renferment point d'exception. Je ne la laisserai point entrer. » « Faites donc attention à ce que vous faites, répliqua la vieille. Ne voyez-vous pas que je badinais avec vous en parlant d'une esclave que ma maîtresse voulait acheter ?» Cette esclave-ci est Naam, favorite du calife. Elle commence à se rétablir et vient de sortir un peu pour sa santé. Au nom de Dieu, ne l'empêchez pas de rentrer. Le calife vous ferait couper la tête s'il venait à apprendre que vous avez refusé l'entrée du harem à son esclave favorite. La vieille faisant aussitôt semblant de s'adresser à Naam. « Entrez, Naam, dit-elle, ne faites pas attention à cela, et n'en parlez pas, je vous prie, à la princesse. » Naam, baissant alors la tête, entra dans le harem. Mais au lieu de prendre à gauche, il prit à droite, et au lieu de compter 5 appartements, il en compta 6 et entra dans le 7e. C'était un appartement richement meublé. Les murs étaient couverts de tapisseries de soie brodées en or. Le bois d'aloès, l'ambre et le musc brûlaient dans des cassolettes d'or et exhalaient les parfums les plus délicieux. Au milieu de cet appartement était une espèce de trône couvert de brocart sur lequel Naam s'assit. Pendant que le jeune homme était occupé à ce qu'il voyait et qu'il réfléchissait sur son aventure, la sœur du calife entra, suivie d'une de ses esclaves. Quand elle aperçut Naam assis sur le trône, elle s'approcha de lui. Et le prenant pour une jeune esclave, elle lui demanda qui il était et qui l'avait introduite dans cet appartement. Mais elle ne put en tirer aucune réponse. « Si vous êtes une des esclaves du calife, mon frère, dit la princesse, et qu'il soit fâché contre vous, je vous promets de lui parler en votre faveur et de vous faire rentrer dans ses bonnes grâces. » La sœur du calife, voyant que Naam gardait toujours le plus profond silence, ordonna à son esclave de se tenir à la porte de l'appartement et de ne laisser entrer personne. S'étant ensuite approchée de plus près du jeune homme déguisé, elle fut surprise de sa beauté et lui adressant de nouveau la parole. « Jeune esclave, dit-elle, apprenez-moi donc qui vous êtes, quel est votre nom et dites-moi qui a pu vous introduire dans mon appartement, car je ne me rappelle pas de vous avoir jamais vu dans ce palais. » Naam, ne répondant pas, la princesse, pour gagner sa confiance et l'engager à parler, voulut lui faire quelques caresses. Elle s'aperçut aussitôt qu'il n'était point une femme et voulut lui arracher le voile qui lui couvrait le visage pour connaître qui il était. « Madame, s'écria Naam, je suis un esclave de grâce, achetez-moi et me prenez sous votre protection. » « Ne craignez rien, dit la princesse, mais dites-moi qui vous êtes et qui vous a introduit dans mon appartement. »« Princesse, répondit-il, on m'appelle Naam, je suis née dans la ville de Koufa et j'ai risqué ma vie pour retrouver mon esclave Naam, qu'on m'a enlevé par la plus infâme de toutes les ruses. » La princesse le rassura, et ayant appelé son esclave, elle lui ordonna d'aller chercher Naam. La vieille s'était déjà rendue à l'appartement de la jeune esclave et lui avait demandé en entrant si son maître était arrivé. Quand la jeune esclave lui dit qu'elle ne l'avait pas vu, la vieille soupçonna qu'il s'était sans doute égaré et qu'il était entré dans un appartement autre que celui qu'elle lui avait indiqué. Elle communiqua ses craintes à Naam, qui s'écria tout effrayée. « C'en est fait de nous, nous sommes perdus !» Comme elles étaient toutes deux occupées à réfléchir sur leur situation, l'esclave de la princesse entra et dit à Naam que la princesse voulait lui parler et qu'elle eût à se rendre sur le champ à son appartement. Naam s'étant levée pour obéir, la vieille femme lui dit à l'oreille « Votre maître est certainement chez la princesse, et tout est découvert. » La sœur du calife, en voyant arriver la jeune esclave, lui dit avec bonté « Votre maître s'est trompé d'appartement, et est entré dans le mien au lieu d'entrer dans le vôtre. Mais n'ayez aucune crainte, je ferai en sorte d'arranger tout ceci. » À ce discours, Naam commença à respirer et remercia la princesse de la protection qu'elle daignait leur accorder. Naam, en voyant sa chère esclave, s'élança vers elle et la serra contre son cœur. La joie qu'ils éprouvèrent les firent tomber sans connaissance dans les bras l'un de l'autre. Lorsqu'ils eurent repris leurs esprits, la princesse les fit asseoir à ses côtés et se mit à chercher avec eux le moyen de les tirer du mauvais pas où ils se trouvaient engagés. « Madame, dit Naam, notre destinée est maintenant entre vos mains. « Vous n'avez rien à redouter de ma part, répondit affectueusement la princesse. Et je ferai au contraire tout ce qui dépendra de moi pour éloigner le danger qui, dans toute autre circonstance, pourrait vous menacer. » Puis, se tournant vers son esclave, elle lui ordonna de leur apporter à manger et de servir des rafraîchissements. Cet ordre ayant été exécuté, la princesse leur présenta elle-même plusieurs choses et les invita à se livrer librement au plaisir qu'ils avaient de se revoir. Ses amants passèrent une partie de la soirée à se féliciter mutuellement de leur réunion et à célébrer la joie et le bonheur dont leur âme était enivrée. La princesse était vivement touchée de ce spectacle et prenait plaisir à voir éclater leur tendresse. « Jamais, disait Naama, je n'ai passé de moments plus doux, et peu m'importe maintenant ce qui doit arriver. »« Vous aimez donc bien cet esclave, lui dit la sœur du calife. »« Vous le voyez, madame, répondit Naama, le danger auquel je m'expose en ce moment prouve assez l'excès de mon amour. »« Et vous, Naama, dit la sœur du calife à la jeune esclave, vous aimez donc bien votre maître ?»«
Madame, répondit Naama, c'est cet amour qui a été cause de la langueur dans laquelle je suis tombée. »
La princesse invita ensuite Naama à jouer de la guitare et lui en fit apporter une. Naama, après l'avoir accordée, préluda quelque temps et chanta ensuite, en s'accompagnant, quelques vers dans lesquels elle témoignait à la princesse la reconnaissance dont elle était pénétrée pour ses bontés. Naama passa ensuite la guitare à Naama, qui, après avoir chanté quelques vers sur le même sujet, le présenta à la princesse. Elle ne fit pas difficulté de prendre l'instrument et chanta elle-même quelques vers sur le bonheur des vrais amants. Tandis que cette scène se passait, le calife Abdelmalek et Merwan entra tout à coup dans l'appartement de la princesse. Les deux amants se levèrent aussitôt et se prosternèrent aux pieds du calife, qui les fit relever avec bonté. Ses regards se portèrent avec complaisance sur Naama, et ayant aperçu une guitare auprès d'elle, il la félicita sur l'heureux retour de sa santé. Jetant ensuite les yeux sur Naama déguisée, il demanda à sa sœur quelle était la jeune esclave qu'il voyait assise auprès de Naama. « Souverain commandeur des croyants, lui répondit la princesse, c'est une jeune personne qui a passé ses premières années auprès de votre esclave favorite, et sans laquelle la vie lui est insupportable. » « En vérité, dit le calife, cette esclave est charmante, elle est aussi belle que Naama. Dès demain, je lui ferai préparer un appartement auprès de celui de sa compagne, et je lui enverrai les parures qui pourront lui faire plaisir en considération de l'amitié que Naama a pour elle. » La princesse fit servir aussitôt des rafraîchissements devant le calife qui venait de s'asseoir. Il prit quelque chose et engagea Naama à jouer de la guitare. Elle le fit et chanta des vers à la louange du calife. Ce prince s'amusa beaucoup à l'entendre, et lorsqu'elle eut fini, il la remercia du plaisir qu'elle venait de lui procurer et lui fit des compliments sur l'étendue et la beauté de sa voix. Vers le milieu de la nuit, la princesse adressa ainsi la parole à son frère. « Souverain commandeur des croyants, Naama, à peine convalescente, doit être extrêmement fatiguée d'avoir chanté et pris part à la conversation toute la soirée. Si vous le trouvez bon, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue autrefois. » Le calife, lui en témoignait le plaisir qu'il aurait à l'entendre, la princesse reprit ainsi. « Seigneur, il y avait autrefois dans la ville de Koufa un jeune homme appelé Naama, fils de Rabia, qui possédait une esclave dont il était éperdument amoureux. Cette esclave, qui avait été élevée avec lui, le payait du plus tendre retour. À peine l'eut-il épousée que la fortune toujours inconstante lui fit éprouver le plus affreux des malheurs. On vint un jour lui enlever son esclave dans sa propre maison. Le ravisseur l'a vendu 10 000 pièces d'or à un prince très puissant, qui fit vainement tous ses efforts pour s'en faire aimer. Naama, au désespoir de la perte de son esclave, abandonna sa famille, sa fortune et sa maison pour aller s'informer de ce qu'elle était devenue et pour tenter tous les moyens possibles de se réunir à elle. Il s'exposa au plus grand danger et risqua même sa vie pour se procurer ce bonheur. À peine venait-il de la retrouver que le prince qui l'avait achetée, les ayant surpris ensemble, se hâta de décider de leur sort et voulut les faire mourir sans délai. « Que pensez-vous, seigneur, dit la princesse, en s'interrompant, de la promptitude de ce prince et de son peu d'équité ?» Le calife répondit que puisque le prince avait tout pouvoir sur eux, il aurait dû leur pardonner, et cela pour trois raisons. La première, parce que ces deux jeunes gens s'aimaient passionnément. La seconde, parce qu'ils se trouvaient dans son palais et sous sa puissance. Et la troisième, parce qu'il avait plus de moyens que ce jeune homme de se procurer une autre esclave. Ce prince, ajouta-t-il, a commis une action indigne d'un souverain. « Daignez maintenant, dit la princesse à son frère, écouter un moment ce que Naama va nous chanter. » Alors, la jeune esclave se mit à peindre dans des vers passionnés les tourments qu'éprouvent deux cœurs unis par le plus doux des sentiments, mais que la rigueur du destin a séparés. Sa voix touchante fit tant de plaisir au calife qu'il lui en témoigna sa satisfaction par les compliments les plus flatteurs. La princesse, saisissant le moment favorable, lui dit qu'un grand roi n'avait que sa parole, et que le jugement qu'il avait une fois prononcé devenait irrévocable.
Ayant ensuite ordonné à Naham et à Naama de se lever, « Souverain commandeur des croyants, dit-elle à son frère, vous voyez devant vous les deux infortunés dont vous venez de plaindre la destinée. » Naham est la jeune esclave que Hedjaj M. Youssef a enlevée à son époux pour vous l'envoyer. Il vous en a imposé dans sa lettre, en vous annonçant qu'il l'avait acheté 10 000 pièces d'or. Naama, que vous voyez devant vous, cachée sous les habits d'une jeune esclave, est véritablement son maître et son époux. Au nom de vos glorieux ancêtres, j'oserais vous prier, Seigneur, d'avoir compassion de leur jeunesse et de leur pardonner la faute qu'ils ont commise. Vous trouverez au fond de votre cœur la récompense de la pitié généreuse que vous leur aurez témoignée. Songez qu'ils sont tous deux en votre pouvoir, qu'ils ont eu l'honneur de manger à votre table et que c'est votre sœur qui vous conjure d'épargner leur sang. » Le calife répondit avec émotion. « Vous avez raison, ma sœur. J'ai prononcé sur cette affaire. Et vous savez que je ne reviens jamais sur le jugement que j'ai une fois porté. » Se tournant ensuite vers Naham. « C'est donc là votre maître, lui dit-il. » « Oui, Seigneur, répondit respectueusement la jeune esclave. » « N'ayez aucune crainte, dit le calife avec bonté. Je vous accorde volontiers votre pardon à tous les deux. Mais Naama, comment avez-vous découvert que votre esclave était ici? Et comment avez-vous fait pour vous y introduire? Seigneur, répondit le jeune homme, daignez écouter le récit de mes infortunes. Je jure, par vos glorieux ancêtres, que je ne vous en cacherai aucune circonstance. » Alors, Naama raconta au calife ce qui lui était arrivé, les obligations qu'il avait eues au médecin persan et à la vieille, comment cette dernière l'avait introduit dans le palais, et de quelle manière il s'était égaré. Le calife, surpris de ce qu'il venait d'entendre, fit venir le médecin persan, le fit revêtir d'une robe d'honneur, et lui donna une place distinguée à la cour. Il lui fit épouser une esclave charmante, et lui dit obligeamment qu'il voulait toujours garder près de sa personne un homme qui avait autant d'adresse et d'intelligence et dont les talents pouvaient lui être aussi utiles. Il combla de bienfaits Naham et Naama ainsi que la vieille. Pendant 7 jours, ce ne fut que fête et réjouissance dans le palais. Au bout de ce temps, le calife accorda à Naham et à Naama la permission de retourner à Koufa. Rabia et son épouse furent transportées de joie en revoyant leur fils et les serrèrent longtemps dans leurs bras. L'histoire de Naama et de Naham était à peine achevée que Scheherazade, profitant du temps qui lui restait encore, commença celle d'Alaïdine, dont elle se doutait bien que le sultan des Indes voudrait entendre la suite.